a été écrite. Et ça nous a été transmis de génération en génération par des gens qui s'appelaient des scribes, des massorètes, qui ont recopié le livre de la Genèse. Vous savez que quand la Genèse est recopiée, on est en 1500 avant Jésus-Christ. Il faut faire un bond dans l'histoire. Ça fait 3500 ans, et c'est à ce moment-là qu'on passe d'un support à un autre support. Un peu comme aujourd'hui, on passe du papier au support numérique. À l'époque, on passe de la pierre, où les gens ils écrivent leurs pensées sur la pierre ou sur les tablettes d'argile, à un autre support qui s'appelle le papyrus, qui croît quelque part en Égypte. Et la tradition assigne le livre de la Genèse à Moïse, qui habite précisément l'Égypte, et qui retranscrit toutes les traditions de son peuple sur le nouveau support qui est le papyrus. Alors la Bible nous dit qu'il a été guidé par l'Esprit de Dieu pour sélectionner les choses que nous devions savoir et les choses qu'il nous a transmises. Alors ça, c'est juste un petit mot sur comment nous est parvenu le livre de la Genèse. Puisque il y a un ami Balis, Bereshet Bara, Elohim et Hashamayim Be'et Haaretz, qui veut dire donc, hein, ça nous est parvenu en plus de 2300 langues et dialectes, et c'est la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je vais revenir sur cette phrase tout à l'heure, et je vais maintenant dire un mot très très rapide sur la science. Alors, je ne veux pas prendre beaucoup de temps, mais ce n'est pas très difficile pour moi, même si mon premier travail, je ne suis pas un scientifique, je suis pasteur, comme tout à l'heure Paulin l'a précisé. Mais il y a quelque chose d'un petit peu scientifique dans le travail de la théologie. Quand on aborde un texte comme ça, il y a des règles. On ne peut pas faire et dire n'importe quoi. Il y a des façons très, très rigoureuses d'aborder l'écriture pour pouvoir l'expliquer. Ce n'est pas très difficile pour moi non plus de parler de la science, parce que j'ai beaucoup d'amis scientifiques. Et à cause de ce cours que je donne à l'Institut biblique de Genève, je suis un petit peu obligé d'être en contact avec le monde scientifique. Comment voulez-vous parler de la Genèse et de la création du monde en faisant complètement abstraction de ce qui se dit aujourd'hui au niveau scientifique? Alors c'est assez étonnant, mais en fait, il y a un faux débat à propos de la Bible et de la science, et je voudrais peut-être qu'on en parle. La science est un mode particulier de connaissance du monde. En science, les explications sont limitées à celles qui sont basées sur des observations et des expériences qui peuvent être validées par d'autres scientifiques. En d'autres termes, pour le dire simplement, les scientifiques se bornent uniquement à observer la création, à observer le monde, et quand ils observent quelque chose qui leur paraît être quelque chose de sérieux, alors leurs observations, ils les partagent avec d'autres scientifiques. Et si les autres scientifiques, effectivement, pensent que c'est quelque chose de sérieux qui peut être reproduit à l'infini, alors leurs observations deviennent une loi scientifique. Et on passe d'une théorie, d'une hypothèse à une loi. J'ai des amis qui sont biochimistes, un autre qui est docteur en pharmacologie qui travaille sur la mutation des cellules. J'ai mangé avec lui cette semaine, il me racontait des trucs extraordinaires sur les cellules souches, etc. D'autres personnes qui travaillent au niveau de la paléontologie et qui ne voient aucun problème entre le fait d'être scientifique et d'être croyant. C'est un faux débat, Bible et science. La Bible et la science ne sont pas opposées. Un scientifique, finalement, il ne fait que observer ce qui se passe et il rapporte le fruit de son observation, c'est tout. Ou pour le dire encore autrement, d'une façon plus simple, les scientifiques observent comment sont constituées les choses. Alors que la Bible, elle ne répond pas au comment. La Bible répond aux questions pourquoi. La Bible ne va pas nous expliquer comment le monde il a été construit. Si Dieu avait voulu nous expliquer comment il avait construit le monde, il nous aurait balancé une formule physique en première ligne et on serait encore en train d'essayer de se gratter la tête pour la comprendre. Et puis voilà, ce n'est pas du tout le but de la Genèse. La Genèse ne nous a pas été donnée pour nous expliquer comment le monde a été construit, mais pourquoi il a été construit. Par contre, c'est le job de la science de montrer comment le monde est construit. Voilà deux images. Celle-ci. Si je vous pose la question suivante, pour vous, laquelle représente le plus l'être humain?
Celle-ci ou celle-ci? Je pose cette question à mes étudiants tous les ans, ils me répondent pareil, les deux. Vous êtes d'accord avec cette réponse? Et c'est marrant parce que chaque fois que j'ai dit vous êtes sûr de cette réponse, il y a toujours un débat. Oh, on est en France, c'est bon. C'est vrai. Non, mais vous aviez raison, les deux. Ben oui, les deux. Les deux. Les deux. Celle-ci montre l'être humain. Celle-ci montre aussi l'être humain. Mais les deux images n'ont pas la même destination. Celle-ci montre comment est construit l'être humain. Ça, c'est très utile si vous avez quelque chose que vous devez vous faire opérer, par exemple. Une telle image peut être très utile pour des scientifiques. Celle-ci, elle ne représente pas comment il fait l'être humain. Mais vous voyez un petit peu le regard de cet homme. Vous n'avez pas envie de connaître son histoire? Quelqu'un a dit, les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est l'être humain aussi. Mais l'image a une autre fonction. Là, ça nous explique plutôt pourquoi. Et ici, ça nous explique plutôt comment. Mais c'est pareil avec la Bible et la science. La science explique le comment, et la Bible, elle va plutôt expliquer le pourquoi. Elle va au profond des choses. Elle parle de l'âme, elle parle du cœur, elle parle de la vie, elle parle de l'histoire. Quand on parle de la Genèse, c'est de ça qu'on parle. Alors, Bible et science, c'est un faux débat, c'est une fausse guerre. En fait, les scientifiques ne sont pas opposés à la Bible, et la Bible n'est pas opposée à la science. Par contre, ce qui peut des fois faire un clash entre la science, la pseudo-science et la Bible, c'est pas la science elle-même, c'est ce qu'on appelle les théories scientifiques. Et là, je voudrais faire un point. Il y a une différence entre une théorie scientifique et la science. La science, c'est juste l'observation des choses. Puis il y a des théories. Et alors, des théories plus ou moins à la mode. Alors, une théorie qui a été très à la mode commence à perdre un petit peu de sa mode actuellement. C'est la théorie de l'évolution. Vous avez entendu parler de cette théorie, non? La théorie de l'évolution. Ok. Plus proche de nous, d'ailleurs, en plein dans la semaine, je faisais une petite allusion au début de la... C'est la théorie du Big Bang. C'est encore une théorie scientifique. Vous en avez une autre de théorie, je ne pense pas, honnêtement, que j'aurai le temps de parler de la troisième. La théorie de l'intelligent design, elle est très très intéressante, cette théorie. Mais voilà, le temps serait trop... On prendrait trop de temps. Mais si, ça ce sont des théories, ce n'est pas la science. Ce sont des théories, c'est-à-dire ce sont des hypothèses. Et à l'intérieur de ces hypothèses, les scientifiques essayent d'épanouir une pensée scientifique. Je parlais récemment à cet ami qui est biochimiste, il me disait, tu sais pour moi, que l'évolution, le Big Bang, etc., dans mon travail, honnêtement, Philippe, je m'en fiche. Parce que ça ne change rien à mon quotidien. Moi, je ne fais qu'observer des choses avec mes ordinateurs, avec des microscopes, et pour moi, ça, c'est de la philosophie. En tant que scientifique pur, ça ne me concerne pas. Alors, il y a une grande différence entre la science et ses théories scientifiques. Alors, pour justement parler de certaines théories scientifiques et montrer à quel point nous, le commun des mortels, j'imagine que, voilà, on lit les mêmes journaux, on regarde les mêmes magazines, on voit la même télévision, et quelquefois, on se fait prendre par les mêmes bêtises. Vous prenez par exemple la théorie de l'évolution, qui est quelque chose qui a été largement plébiscité. Vous savez qu'en 1865, ça remonte quand même pas à hier, ce monsieur, Charles Darwin, a tout simplement observé des pinsons sur l'archipel des îles Galapagos. Et il a vu, cet homme, ce naturaliste, a vu que les pinsons n'étaient pas les mêmes selon qu'ils puissent être sur un de ces archipels, de ces petits îlots, je crois qu'il y a 17 îlots qui forment les Galapagos. Il a vu que sur certains îlots, les pinsons étaient un petit peu plus... avec plus de plumes. Dans d'autres îlots, la forme du bec était légèrement différente. Et donc, il a écrit un livre. Ce livre, il l'a nommé « De l'origine des espèces ».« De l'origine des espèces ». Nous sommes en 1865, juste après la Révolution française. On vient de couper la tête au roi, on se débarrasse de l'ancien régime, le dogme religieux, on en a marre, parce que depuis des décennies, il y a des rois qui font n'importe quoi et qui disent « c'est au nom de Dieu qu'on le fait ». Donc les gens, ils ont envie d'être libres de tout ça. Et comme on dit à Marseille, ils jettent le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils jettent le roi, ils jettent tout ce qui représente l'Ancien Régime, c'est-à-dire aussi le dogme religieux, et l'homme a tout simplement envie de penser à autre chose. Et là, Darwin, il fait un carton. Avec son livre, mais tout le monde le lit, il est traduit dans toutes les langues. Un livre où, quand vous le lisez bien, je ne sais pas si vous l'avez lu ce livre, hein, il y a 800 fois l'expression « on peut bien supposer que ». Ce qui veut dire que Charles Darwin lui-même l'a dit. C'est une théorie, c'est une hypothèse. Il n'a jamais dit que c'était comme ça. Ce qu'il a simplement dit, Charles Darwin, c'est qu'il a observé que les espèces, elles pouvaient s'adapter à leur milieu ambiant. Quand il faisait un petit peu plus froid, les pinsons avaient un peu plus de plumes. Quand les graines étaient un petit peu plus dures, les becs étaient un peu plus forts. C'est ça qu'il a observé. L'adaptation des espèces au milieu ambiant. C'est les suiveurs de Charles Darwin, et non pas Charles Darwin lui-même, ses disciples, Huxley et compagnie, qui ont parlé d'autre chose. Ils ont dit qu'une espèce pouvait devenir une autre espèce. Vous voyez ? Comme par exemple un rat, je dis n'importe quoi, qui pourrait devenir une espèce de voilà, on a un amphibien qui devient un rat, qui va devenir un cheval. Ouais. Une espèce qui devient une autre espèce. Et ça, c'est jamais Charles Darwin qui l'a dit. Ça, c'est ce qu'on appelle le transformisme. Mais quand vous parlez à un homme dans la rue, vous dites « Tu crois dans l'évolution ?» Et qui vous répond « Oui. » Il veut dire ça. Parce que c'est ça qu'on nous a expliqué. Alors moi, depuis des décennies, je disais « Mais à l'école, on nous raconte un peu n'importe quoi, parce que ça n'a jamais été prouvé, et on nous parle toujours de l'évolution. » Et j'ai un ami qui est formateur pour les professeurs des écoles, qui m'a expliqué, tu sais, dans le programme officiel national, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans les écoles ici, le mot évolution n'y est pas, c'est le terme adaptation qui est. Donc je retire ce que j'ai dit. Dans les manuels d'école, si vous entendez un instituteur parler d'évolution, sachez qu'il outrepasse le programme. Ce qui a marqué dedans, c'est adaptation, pas évolution. La girafe. Pourquoi elle a un long cou? Tout le monde, il a entendu cette histoire. Mais tout le monde l'a entendu. Et puis c'est ce qu'on dit à Marseille, et peu cher, les petits girafons, comment ils font alors? Alors ils montent sur les épaules de leur maman. Mais vous ne l'avez pas tous entendu, cette histoire? Que la girafe, elle a un long cou parce qu'elle a tendu le cou pour essayer d'attraper les feuilles. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la répétition d'un geste, la fonction, c'est l'organe. Mais aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux. On sait que si la girafe elle a un long cou, c'est parce que dans son ADN, c'est programmé long cou. C'est tout. C'est pas parce qu'elle a essayé de tordre son cou, c'est parce que dans son code génétique, c'est marqué long cou. Vous savez que si on pouvait lire votre code génétique, on en est vraiment au B.A.B.A. Au B.A.B.A. On l'utilise en criminologie, le code génétique ADN. Mais si on pouvait le lire, on pourrait lire votre taille, votre hérédité, le nombre de cheveux que vous avez sur la tête et les cellules capillaires actives. Vous avez jamais entendu le Seigneur Jésus quand il dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Si quelqu'un pouvait consulter votre code, il saurait tout ça. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut le faire? Alors pour revenir à cette question de micro et de macro-évolution, pour être clair et pour conclure là-dessus, micro ça veut dire petit, macro ça veut dire grand, petite évolution, grande évolution. La petite évolution, c'est l'adaptation de l'espèce au milieu ambiant. C'est ce que Charles Darwin a vu, et ça c'est scientifique, on l'a vu aussi, et on l'a vu des dizaines de milliers de fois. Par contre, la transformation d'une espèce en une autre espèce n'a jamais été observée scientifiquement, jamais. Donc il faut le savoir. Mais ça, mes amis, je suis désolé, c'est pas de la science, ça. C'est une théorie scientifique. D'ailleurs, quand une théorie est prouvée, je vous ai dit tout à l'heure, en science, on l'appelle une loi. Est-ce que vous avez entendu parler de la loi de l'évolution? Vous avez toujours entendu parler de la théorie de l'évolution, parce que l'évolution, celle-ci en tout cas, est une théorie. Donc ça, c'est très important de savoir. Si si on prend on a un petit aperçu sur le livre de la Genèse, regardez comme c'est bien écrit. Que la terre produise de la verdure, c'est Dieu qui parle, hein, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, c'est moi qui soulignais. Pour le monde végétal, regardez les animaux marins et les volatiles, que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Et là encore, les animaux terrestres, les animaux vivants selon leur espèce, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, selon leur espèce, selon leur espèce, selon leur espèce. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup? C'est comme si le texte avait voulu délibérément nous montrer quelque chose. Quand on lit le livre de la Genèse, on est en face d'un monde qui est ordonné. Il n'y a pas de confusion. Essayez de croiser deux animaux d'espèces différentes, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir soit un animal qui ne peut pas vivre, soit s'il vit, c'est un monstre qui ne peut pas se reproduire. Il y a comme un interdit qui nous empêche de passer d'une espèce à l'autre. Et le monde, dans le livre de la Genèse, est montré non pas comme quelque chose qui est toujours en train de s'accomplir, il est inachevé. Non, dans le livre de la Genèse, on s'aperçoit que le monde, il est ordonné et il est achevé. Un oiseau, c'est un oiseau. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Un reptile, c'est un reptile. On ne peut pas confondre une girafe avec un poisson. C'est quelque chose de très, très, très ordonné, le monde, tel que Dieu le décrit dans le livre de la Genèse. Au-delà de toutes les questions que vous pouvez vous poser, comment est-ce qu'il a fait? En tout cas, il l'a fait de façon ordonnée. Ce n'est pas la confusion. Ce n'est pas le chaos. C'est un projet qui est achevé. Ça tourne. Ça marche. Une autre chose qui est beaucoup plus proche de nous, c'est la théorie du Big Bang. Là encore, on est dans une théorie scientifique. C'est le Big Bang. Alors le Big Bang, est-ce que vous en avez entendu parler? C'est quand même pas cette semaine que c'est né. Ça fait depuis 1915 que le mot Big Bang a été prononcé, je crois, d'une façon un petit peu polémique. Mais le Big Bang, pour vous la faire courte, c'est le monde qui aurait été à l'origine, c'est tout l'univers entier, hein, qui aurait été à l'origine contenu dans une espèce de tête d'épingle. Cette tête d'épingle, d'une densité extraordinaire, on ne peut pas la calculer, aurait explosé et aurait produit un univers en expansion, duquel nous faisons partie. C'est ça le Big Bang. Okay? C'est une théorie scientifique. Vous savez ce que c'est?
Hein?
Comment? Donc, qu'est-ce que ça dit?
L'art moderne.
Pas cette semaine, mais tu es pas loin. Tu es pas loin. Alors, ça aurait pu être une. Ouais, les années 70, psychédélique, ouais, hein. Ou de l'art moderne, effectivement.
Zones de chaleur?
Tu es pas loin, des zones de chaleur.
C'est pas une trace de ce qu'ils ont découvert ce soir, la nouvelle radiation.
Alors, on va y venir. Ça, c'est juste ce qu'ils ont découvert avant. Un jour, ils ont envoyé une sonde météo dans l'espace. Et cette sonde météo, elle a pris par erreur cette photo. Et cette photo, on s'est demandé, les scientifiques se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'était ceci. Ça vous en dit beaucoup plus, hein. En fait, ils se sont rendus compte que c'était effectivement quelque chose. Ce quelque chose, c'était de la lumière. Cette sonde météo, elle avait pris en photo de la lumière dans le cosmos. Mais cette lumière, elle venait d'où? C'est de la lumière fossile. Qu'est-ce que c'est? Je vous explique en un mot. Quand vous regardez une lumière, vous fermez les yeux, qu'est-ce qui se passe? Persistance rétinienne, n'est-ce pas? Ça continue à se refléter pendant quelques instants et après, elle disparaît. Eh bien ça, c'est un petit peu ce qui s'est passé à l'échelon de l'univers entier. Il y a de la lumière comme un événement lumineux très très ancien. À part que cette lumière, on ne sait pas d'où elle vient. C'est une lumière résiduelle, fossile. Elle remplit 30% des espaces célestes, des espaces interstellaires. À tel point que les scientifiques l'ont tellement pris au sérieux qu'ils ont mis des milliards et des milliards pour construire un satellite qu'ils ont appelé le satellite Planck. Planck, c'est le grand physicien. Et effectivement, et c'est là que je te rejoins, il a photographié ceci. Alors là, tu passes de l'ancienne Kodak, tu vois, au tout numérique des radiophiles. Et c'est ça qu'il a photographié. Et aujourd'hui, certains scientifiques disent ceci. Les questions qu'on avait, que des générations d'hommes et de femmes se sont posées, trouvent enfin leur réponse aujourd'hui. C'est-à-dire que nous savons aujourd'hui, c'est pas moi qui le dis, c'est... Nous savons aujourd'hui que le monde n'a pas 22 milliards d'années, ni 24 milliards d'années, mais 23,7 milliards d'années. Avec une précision extraordinaire, quand on sait qu'on n'a pas d'instrument de mesure fiable au-dessus de 7000 ans. Toujours en est-il que cette carte est censée nous montrer le début de l'univers. C'est en remontant cette lumière qui est beaucoup plus précise aujourd'hui qu'on arriverait à voir le début de l'univers. L'univers qui serait né d'une espèce d'explosion qui aujourd'hui a donné la théorie du Big Bang. Je trouve cette théorie un petit peu excitante. Et d'un autre côté, il faut la prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes, parce que ces mêmes scientifiques vous disent, là par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de chaleur ici. Et pourtant, vous voyez comme c'est une zone qui a été photographiée avec une apparence de froid. C'est pas normal. Donc cette carte, elle contient encore beaucoup d'erreurs. Il va encore nous falloir beaucoup travailler. Et c'est cette semaine qu'ils ont découvert ces fameuses ondes gravitationnelles, qui, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais qui leur font penser qu'ils sont dans le vrai en pensant au Big Bang. Mais tout ça, mes amis, ce sont des théories. Toujours en est-il que le premier décret créateur que vous trouvez dans le livre de la Genèse, c'est précisément celui-ci. Dieu dit que la lumière soit. C'est la première de toutes les choses qu'il crée par sa parole, c'est la lumière. Aujourd'hui, les scientifiques sont en train de nous dire qu'il y a eu un événement dans un passé très lointain, lumineux, qui serait à l'origine de notre cosmos. Donc je vous disais, on est en train de changer de mode, on laisse la mode, la théorie de l'évolution, et on est beaucoup plus aujourd'hui dans la théorie du Big Bang. Le temps me manquerait pour vous parler de Intelligent Design, on ne peut pas le faire. C'est aussi très intéressant, on pourra en parler à table s'il vous plaît. La doctrine biblique de la création du monde par Dieu. Quand on revient à ce que le texte biblique dit, on se rend compte que finalement, ce texte, souvent en tout cas, a été présenté de cette façon. C'était bien pour les gens qui vivaient avant la science. C'était pour des esprits un peu primitifs, un peu chers. Ils ne comprenaient pas, alors on leur a parlé de Dieu, on a essayé de leur expliquer simplement les choses, mais maintenant que nous avons la science, il est évident que nous ne pouvons plus lire ça. C'est un petit peu ce qui est véhiculé quand on présente la première page de la Bible. Alors, ok, ça serait donc écrit pour les esprits simplistes. D'accord. Je reprends cette phrase en français. Okay. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est la première phrase de toute la Bible. Et maintenant, si on se penche un peu sur cette phrase, au commencement, vous savez que le peuple juif n'a pas appelé le premier livre de la Bible la Genèse, ça c'est un terme grec qui est venu 200 avant Jésus-Christ, mais le peuple juif l'a appelé depuis tout temps le livre du commencement, le Bereshit. Le Bereshit c'est au commencement, Bereshit c'est au commencement en hébreu. C'est-à-dire qu'il est important de savoir que le monde a eu un commencement. Parce que s'il y a eu un commencement, ça veut dire qu'il peut aussi avoir une fin. Le monde n'a pas toujours existé. Et ça, depuis 1500 avant Jésus-Christ, en lisant le livre de la Genèse, les Juifs l'ont su. Maintenant, essayez de réfléchir à ça, si vous pouvez. Au commencement, d'accord, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose avant le commencement? Mais alors, ok, s'il y a eu quelque chose avant le commencement, c'était le commencement de quoi? Ce commencement. Et quand vous lisez le livre de la Genèse, c'est le commencement de tout. C'est le commencement de l'espace. C'est le commencement du temps. C'est Albert Einstein qui a dit, tu enlèves le temps et l'espace, il n'y a plus rien. Ok. Est-ce que tu arrives à imaginer quelque chose qui existe avant le commencement du temps et le commencement de l'espace? Tu arrives, toi? Parce que moi, j'y arrive pas. Et ça a été écrit pour des primitifs, ça? Une autre chose. Dieu. Le Dieu de la Genèse est, se présente comme quelqu'un qui parle. C'est une personne intelligente. C'est pas une espèce de truc qui flotte, une espèce de force. C'est quelqu'un avec une personnalité, quelqu'un qui a des projets très précis et qui parle. Est-ce que tu arrives à imaginer quelqu'un qui peut vivre en dehors du temps et de l'espace, et qui est intelligent, et qui est doué de parole? Tu y arrives, toi? Eh ben, bravo, parce que moi, j'y arrive pas. C'est quelque chose qui est complètement, mais complètement en dehors de ma petite tête. Ça fait sauter ma tête. Je me dis, ok, si j'ai aujourd'hui cette phrase, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, il y a une seule solution. C'est que cette personne a voulu communiquer de l'autre côté du système pour qu'on ait cette phrase. Parce qu'on n'aurait pas pu y arriver avec notre petite intelligence à cette phrase. En plus, des gens qui ont vécu 1500 ans avant Jésus-Christ, qui élevaient des moutons dans le désert. Vous imaginez, cette communication-là est venue de quelqu'un qui a existé avant le temps et l'espace. Et donc, ce livre, la Genèse, comme les autres livres bibliques, ne sont pas une explication. C'est une révélation. Si Dieu n'avait pas décidé de le dire, on n'aurait pas pu les avoir, ces informations. Mais il nous les a données. Il nous a donné pour qu'on sache quelque chose d'important. Créa. Au commencement, Dieu créa. Le mot créé, en hébreu bara, c'est un mot qui n'est utilisé par les Hébreux que quand Dieu, Elohim, est sujet. Vous n'allez jamais dire, par exemple, un artiste a bara un tableau. Ou alors un parfumeur a bara un parfum. Non, jamais. Parce qu'on va vous dire. Un juif vous dirait, deux minutes, tu dis que ce parfumeur a créé un nouveau parfum? Enfin, il devait avoir des fleurs, il devait avoir de l'alcool, il devait avoir de l'huile, etc. Parce que pour nous, bara, ça veut dire créer, ça veut dire faire à partir de rien. Quand tu dis, un artiste a créé une toile, justement, ça veut dire qu'il n'aurait pas eu de toile, mais ton artiste, il a eu une toile, il a eu de la peinture, il a eu des pinceaux. Donc ne me dis pas qu'il a créé une toile, dis qu'il a composé une toile. Dis que ton parfumeur, il a composé un parfum. Ton musicien, il a composé un psaume parce qu'il avait une sitar, il avait un instrument de musique. Il n'y a que Dieu qui peut créer, parce que créer, c'est faire à partir de rien. Et là, de nouveau, ma petite tête, faire à partir de rien. Rien. C'est quoi rien? Parce que pour moi, rien, c'est encore quelque chose. Là, voyez, quand il a fait le vide, là, le vide, c'est quelque chose. On est bien d'accord. C'est physiquement, on connaît le vide, mais le rien, c'est le rien, mes amis. Et j'arrive pas à imaginer, à même concevoir le rien. De nouveau, je me pose la question, ça a été écrit pour les primitifs, ça. Mais ça me semble quelque chose qui est difficile à comprendre pour des gens de la société post-moderne du 21e siècle d'aujourd'hui, en tout cas pour moi. S'il y a des gens qui arrivent à comprendre ça autour de cette table, j'ai envie de leur dire, allez, venez, on vous met un globe de verre, et on vient vous interroger, vous êtes la sagesse incarnée. Parce que je suis en face de concepts là qui me dépassent, mais complètement. Et puis, la dernière partie de cette phrase, les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Alors ça veut dire, en hébreu, ça veut dire tout. Les cieux et la terre, ça veut dire tout simplement, tout. Tout. Quand vous lisez le récit, vous allez vous rendre compte que très très rapidement, on passe de la description de la terre, donc du ciel d'abord, du ciel, puis très rapidement, ça s'oriente vers la terre, très rapidement, ça s'oriente sur le vivant, très rapidement, ça s'oriente sur l'être humain. En fait, le récit, tout ce récit-là, l'accent de ce récit, c'est l'être humain. Dieu nous explique quelque chose à propos de l'être humain. Et c'est ça qui est important. Il est en train, en fait, de nous communiquer l'origine de l'être humain, notre histoire. Il n'est pas en train de nous expliquer comment il a créé les galaxies, etc. Il nous montre qu'il les a fait comme en passant. Par contre, il s'attarde beaucoup sur le récit de l'être humain. Et il veut nous expliquer pourquoi on existe. Il est là, la raison du livre des premiers chapitres de la Genèse. C'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis ce que je suis? Pourquoi j'ai vécu ces choses-là? Et là, on apprend des choses très très importantes sur l'origine de l'humanité. Et on comprend beaucoup de choses si on les a intégrées, ces choses-là. On comprend par exemple qu'au début, l'humanité vivait en symbiose avec Dieu. Il y avait une communication avec Dieu qui était extraordinaire. Il voyait Dieu tous les jours, il parlait, comme je vous parle là. C'était extraordinaire. Ça s'appelait Éden. C'était un jardin qui en hébreu veut dire délice. Et c'était un endroit bien délimité sur la terre. Il s'est passé quelque chose, c'est qu'à un moment donné, les premiers êtres humains ont préféré la connaissance. La connaissance. Je vous ai parlé tout à l'heure des théories scientifiques. Avez-vous remarqué comment, des milliers d'années après, on n'a pas changé? On essaye d'expliquer le monde par la connaissance. Par une connaissance qui exclut Dieu. C'est exactement ce qu'ont vécu les premiers êtres humains. Ils ont voulu vivre leur vie par une connaissance qui excluait Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont pensé qu'ils pouvaient dompter cette planète et partir à la conquête de la nature sans l'aide de Dieu. Avec leur seule connaissance, avec leur seule faculté, leur seule intelligence. Et ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, ils se sont rendus compte que cette connaissance, eh bien, la première des choses qu'elle leur enseignait, c'est qu'ils étaient vulnérables, ils étaient nus, et qu'ils ne pouvaient pas dompter la planète, que la nature était beaucoup trop forte pour eux, et qu'ils venaient de faire la boulette de leur vie, qu'en fait, oui, ils auraient pu conquérir cette planète et en faire un paradis, s'ils avaient été à l'assaut de cette planète, de cette nature qui est surpuissante. Regardez les baleines, regardez un volcan, regardez un tremblement de terre. Tout ça aurait pu être maîtrisé par l'homme d'une manière harmonieuse s'il l'avait fait avec Dieu. Seulement l'homme a voulu se reposer sur lui-même et alors il a été livré à lui-même devant des forces qui le dépassent. Une autre chose que nous dit aussi ce texte, c'est que quand l'homme a eu cette idée de préférer sa propre connaissance, sa propre intelligence, finalement son point fort, c'est ce qui est devenu son point faible. Eh bien, il l'a fait parce que quelqu'un lui a suggéré de le faire. Une source extérieure. Et cette source extérieure, la Bible nous parle d'un serpent. Je ne sais pas si vous avez lu une fois la Genèse. Un serpent qui parle aux premiers êtres humains. Il y a beaucoup de gens qui regardent ça comme une légende. Ce qu'ils disent, un serpent qui parle. C'est Narnia, ça. C'est Narnia. L'animal il parle. Deux minutes. Dans la Bible, vous pouvez lire, hein, les animaux, ils ne parlent pas. Hein. Ils ne parlent pas. Il y a un serpent qui parle au début, là, c'est vrai. Mais les animaux, ils ne parlent pas. Quand un animal parle dans la Bible, comme le serpent, c'est parce qu'il y a une force occulte qui parle derrière ce serpent. Il y a une force occulte qui a parlé au premier homme. Et cette force occulte, c'est une intelligence angélique qui a parlé au premier homme et qui lui a suggéré de partir à l'assaut du monde sans Dieu. Tu auras la connaissance, comme Dieu tu deviendras. Et aujourd'hui, quand on regarde les théories scientifiques sur lesquelles on voudrait appuyer notre monde, c'est exactement ça. Comme Dieu tu deviendras. Si tu penses pouvoir comprendre le monde par toi-même, ça veut dire que finalement tu te prends toi-même pour Dieu. Et que tu vas vivre ta vie en étant ton propre Dieu. C'est ça que le livre de la Genèse nous transmet, vous voyez, c'est ce pourquoi nous sommes là. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Pourquoi est-ce qu'il y a de la souffrance? Pourquoi il y a de l'injustice? Pourquoi il y a des gens qui font le régime pendant que d'autres crèvent de faim? Parce qu'il y a quelque chose qui va mal dans l'être humain, il y a quelque chose qui va mal dans le monde. L'autorité de l'homme a été transférée sur une puissance qui est mauvaise. Et on accuse Dieu. On accuse Dieu des tremblements de terre. On accuse Dieu des guerres, on accuse Dieu de l'injustice, et on oublie la personne qui a suggéré à l'être humain de vivre sa vie sans Dieu. Celui-là, on l'oublie toujours. Et on l'oublie particulièrement en Occident, dans notre Occident qui a basé sa pensée sur la connaissance. Une partie de la stratégie du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Et chaque fois que les hommes pointent le poing vers Dieu sans savoir, souvent, ils se trompent de combat, ils se trompent d'ennemi. Pourquoi ça m'est arrivé? On ne pose pas la question à la bonne personne. Et je ne conseille pas qu'on pose la question à cette mauvaise personne. Je dis simplement, il y a une explication des choses qui nous dépassent et dont on est encore victime aujourd'hui. Nous vivons, en tant que race humaine, bien souvent à côté de ce que des informations originelles que nous devrions avoir qui nous permettent de repositionner notre présent pour envisager l'avenir. Voilà ce que disent les premières pages du livre de la Genèse et encore bien d'autres. Juste pour terminer, si je peux me permettre, ça serait des questions qui seraient intéressantes, bien sûr, on n'est pas dans une étude, loin de là, mais si jamais vous avez envie de réfléchir à certaines choses, et si jamais vous avez envie de poser des questions à la fin, je n'ai pas la prétention de savoir répondre à tout, mais simplement, peut-être pour alimenter notre pensée, notre réflexion. Une question qu'on peut se poser, qu'est-ce que cela change de croire ou de ne pas croire que Dieu nous a créés? Qu'est-ce que ça change de croire ou de ne pas croire que Dieu nous a créés? Par exemple, dans la société, ou dans l'éducation, ou dans la construction d'identité, qu'est-ce que ça change de croire ou de ne pas croire que Dieu nous a créés? Prenez un enfant, Benjamin. Est-ce que tu sais pourquoi tu vis là? Ben, papa, parce que Dieu m'a créé. Ok, première réponse. Benjamin, est-ce que tu sais pourquoi tu existes? Je suis un accident du hasard. Qu'est-ce que ça change concrètement de croire ou de ne pas croire que Dieu nous a créés? Au niveau de la société, au niveau de l'éducation, ou dans la construction de l'identité juste? Quelques questions, mais je suis sûr que vous en avez peut-être bien d'autres. Voilà. Moi, je vous remercie de votre attention et je vous donne peut-être rendez-vous tout à l'heure quand Colin.
Je vais vous laisser tranquillement.
On va faire une question de toutes les remèdes, les questions de pour qu'on puisse. On prend le dessert. Je suis de super idée. Voilà.